Les cours du Collège de France, Dario Mantovani, chaire Droit, Culture et Société de la Rome antique.
Mesdames, Messieurs, il y a des expressions dont on peut dire que l'on connaît le sens, mais qu'on ne les comprend pas vraiment. C'est le cas du mot « caput », lorsqu'il est employé en latin dans le langage juridique, notamment lorsqu'il apparaît dans la locution « capitis diminutio » ou « capite diminuere ». Voyons comment cette locution est définie dans les Instituts de Justinien, ce manuel pour les étudiants compilé en 533 après Jésus-Christ et qui, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, reprend de larges passages des Instituts de Gaius, rédigés au IIe siècle après Jésus-Christ, dont le manuel de Justinien a aussi repris le titre. Alors, j'utilise la version de Justinien et non celle de Gaius, parce que les Instituts de Gaius n'ont été retrouvés et publiés qu'en 1820. Les Instituts de Justinien, en revanche, ont été intensément lus depuis le Moyen-Âge et l'ont donc exercé une influence considérable sur la pensée moderne, comme nous le verrons plus loin. D'ailleurs, quoi qu'il en soit des différences entre les deux versions, la plus ancienne de Gaius et celle modernisée de Justinien, sur les points essentiels, les deux coïncident et c'est le principal pour nous. Lisons ensemble ce texte. Pour l'instant, comme vous voyez, je n'ai pas traduit l'expression « capitis diminutio », c'est parce que c'est justement l'objet de cette explication. La « capitis diminutio » est le changement de l'état précédent. Elle peut se produire de trois façons. En effet, la capitis diminutio est soit maximale, soit moindre, que certaines appellent aussi moyenne, soit minimale. Ainsi présentée, inscrite dans cette tripartition, la capitis diminutio nous apparaît fort claire. La locution est expliquée, plutôt paraphrasée, par les Instituts Justinien et avant elle par Gaius, comme un changement de l'état précédent. J'utilise le mot « état » qui correspond exactement au mot latin « status » et qui vient du verbe « stare ».« Stare » signifie « demeurer », »,« être debout ». C'est un verbe que nous retrouvons en français dans « rester » ou « exister ». Status signifie donc la condition, la manière d'être à un moment donné. Donc la condition, la manière d'être à un moment donné, ça c'est status. Un autre mot que nous pourrions utiliser, c'est statut, qui vient du verbe statuo, établir. Les deux sont équivalents pour ce qui nous concerne. Par état ou statut, nous entendons le cadre juridique dans lequel se trouve un individu. On parle aujourd'hui de statut de l'enfant, statut de réfugié, statut des fonctionnaires. Si nous voulions suivre les raisonnements des anciens, tel qu'il est exprimé dans les Instituts de Justinien, nous pourrions établir une sorte d'équivalence, que j'ai essayé d'afficher. Diminutio équivaut à commutatio, donc à changement, et caput équivaut à status, état, ce qui donne comme résultat changement de la condition juridique d'une personne. De cette manière, nous aurions, pour ainsi dire, adapté, ou plutôt, j'utilise ce verbe, assimilé, cette expression latine énigmatique à notre langage moderne. Ceci faisant, nous arrivons à l'entendre. Bien évidemment, nous comprenons cette locution, mais nous annulons aussi toute la distance, toute la particularité de l'expression. Permettez-moi de vous prévenir, en sortant de ce cours, si on vous demande ce qu'est la capitis diminutio, tout ce qui vous viendra à l'esprit de répondre sera cette paraphrase. Vous allez répondre c'est le changement de statut juridique d'une personne. C'est presque inévitable. Nous avons tendance à assimiler l'inconnu à ce que nous connaissons déjà. Et je pense que c'est justement pour éviter ce risque que l'histoire doit être présentée de manière analytique, en prêtant attention à chaque mot, parce que c'est seulement par le biais des mots que nous pouvons voyager, nous rapprocher du passé, et ne pas rester toujours sur place, dans le présent. Alors, pour comprendre un peu mieux la Capitis de Minutio, ne nous limitons pas à cette paraphrase, parce que je vous ai dit, la paraphrase, ça gomme un peu la signification de l'expression. Et pour l'instant, limitons-nous à la lecture de la première ligne de chaque paragraphe où l'on trouve une définition. Alors, comme je vous ai dit, alors on lit maintenant les instituts de Justinien, mais derrière ce texte, il y a les instituts de Gaius. Vous savez déjà que Gaius a proposé un manuel vraiment très bien agencé. Et l'une des formes qui permet de mieux suivre le déroulement d'un discours d'un enseignant, c'est la régularité. Donc vous voyez qu'à chaque paragraphe, il commence par une définition. Et nous limitons maintenant à lire les définitions. La capitis de minutio est maximale quand quelqu'un perd à la fois sa citoyenneté et sa liberté. La capitis de minutio est moindre ou moyenne quand on perd la citoyenneté mais on conserve la liberté. La capitis de minutio est minimale lorsque la citoyenneté et la liberté sont maintenues mais l'état d'un homme est modifié. Alors, de ces trois conclusions, de ces trois définitions, on peut tirer une conclusion. Ce changement de statut n'est donc appelé capitis de minutio que par rapport à trois critères. La citoyenneté, la liberté et, on peut l'ajouter dès à présent, pouvoir familial, qui est un peu plus caché dans cette définition. Les instituts justiniens clarifient bien ce concept puisqu'à la fin de cette section dont nous avons lu le début, elles ajoutent que d'autres types de changements ne constituent pas, à proprement parler, une capitis de minutio. Ceux dont la dignité plutôt que l'état est modifié ne subissent pas de capitis de minutio. Par conséquent, on est d'accord que ceux qui sont exclus du Sénat ne subissent pas de capitis de minutio. Donc, être exclu du Sénat de Rome, un peu comme n'être pas réélu au Sénat de la République, est un changement en termes de dignité. On n'est plus un sénateur. On ne souffre pourtant pas de capitis de minutio. Alors, les instituts, elles aussi, sont un manuel pour des étudiants, et cette façon de procéder par antithèse, parce que vous avez vu, il y a une définition de ce qu'est la capitis de minutio, ensuite ce qui n'est pas la capitis de minutio, c'est procéder par antithèse, très pédagogique, et elle permet de dégager, en soulignant les différences, les contours de l'objet que l'on définit. Et ce principe reste bien fixé dans la mémoire, dans notre mémoire. Il n'y a capitis de minutio que lorsque le changement de statut concerne la citoyenneté, la liberté ou la soumission au pouvoir familial. Alors, venons-en maintenant aux exemples mis en avant par les instituts de Justinien que nous avions laissé de côté, c'est-à-dire les présupposés pour qu'une capitis de minutio se produise. Je vous préviens, il faudra que vous preniez des notes. Premier cas, le premier exemple concerne le cas que le manuel de Justinien lui-même définit comme atroce, selon une technique pédagogique qui tend à imprimer une notion en suscitant une émotion. C'est le cas où un condamné pour un crime devient un esclave de la peine. Il s'agit bien sûr d'une métaphore, dans le sens où certains types de condamnés étaient considérés comme des esclaves. Mais des esclaves non pas d'un maître déterminé, mais justement des esclaves de la peine. Alors, c'est la pire des conditions possibles qui ne leur permettait pas d'autres destinées ou affectations que de purger la peine à laquelle ils étaient condamnés. Si on les avait considérés comme esclaves, non pas de la peine, mais mettons du trésor public ou de l'empereur, ces derniers auraient pu les utiliser à d'autres fins. En revanche, en tant qu'esclaves de la peine, les condamnés ne pouvaient que servir leur maîtresse, c'est-à-dire la mort ou le travail dans les mines. Une maîtresse, la peine, qui est personnifiée dans cette locution, esclave de la peine. Alors, il s'agit d'une figure qui apparaît dans les sources romaines au IIe siècle de notre ère et qui survit sans doute dans l'expression anglaise « to serve in prison » pour qualifier quelqu'un qui doit purger une peine d'emprisonnement. Cela dit, qui sont, en droit romain, les esclaves de la peine. Ce sont les condamnés à mort, destinés à être décapités ou tués dans l'arène par des animaux et autres supplices mortels, et les condamnés aux travaux forcés dans les mines. Ceux-ci, dès le moment de la condamnation, avant même qu'elle ne soit exécutée, devenaient les esclaves de la peine. Ils souffraient, dit Justinien, d'une capitis de minutio maxima au plus haut degré, car ils perdaient à la fois leur citoyenneté et leur liberté. Donc, les deux ensemble. Les instituts mentionnent deux autres exemples. Alors, nous sommes en train de lire ce paragraphe, donc vous avez vu. Le premier exemple, donc j'ai développé longuement le mot servipene, donc tout ce que je viens de dire, ce n'est qu'un commentaire à cette locution. Ensuite, il y a ce deuxième cas, celui des affranchis condamnés pour ingratitude envers leur patron. Les affranchis sont d'anciens esclaves que leur maître a libérés à travers la manumissio, l'affranchissement. Ils doivent donc à leur maître d'être devenus des individus libres et citoyens romains à plein titre. Et c'est pourquoi on attend d'eux une gratitude, donc une soumission perpétuelle envers leur maître, qui se manifeste par ce que les sources appellent l'obsequium, un regard continu. Bref, les affranchis, bien que libres et citoyens, sont néanmoins en état d'infériorité par rapport à leur patron. Ainsi, au cas où ils ne se comporteraient pas comme la soumission l'exigerait, la punition consistait à redevenir esclave, une rétrocession par manque de gratitude. Alors voici un bel exemple visuel pour montrer à quel point, comment les affranchis ont pu rester à jamais dans l'orbite de leur patron, même après la mort. Il s'agit d'une stèle funéraire qui montre en haut Titus Fuficius, un légionnaire, avec son épouse et ses enfants, tandis que le champ inférieur, donc vous voyez aussi la métaphore en haut et en bas, infériorité, supériorité, dans le champ inférieur, trois affranchis sont déployés. Donc vous voyez, même il y a une sorte de soumission et aussi de, moi je dirais aussi de communauté entre les patrons et les affranchis, qui doivent toujours être soumis au patron. Donc l'ingratitude, dans ce cas, n'est pas admise. Dernier cas de capitis diminutio maximal est le plus curieux. Ceux qui ont accepté d'être vendus pour partager le prix obtenu. C'est le cas d'un homme libre qui s'est fait passer pour un esclave. Pourquoi se faire passer pour un esclave? Parce que de mèche avec un autre, il se fait vendre. L'acheteur, ignorant la supercherie, paye, puis le prétendu esclave se dit libre. En tant que tel, il annonce tranquillement à l'acheteur qu'il va s'en aller et que l'autre ne peut pas le retenir. Entre-temps, ce rusé personnage s'est accordé avec le vendeur pour toucher une partie du prix. Donc une vraie arnaque. Les Romains ont réagi en refusant que celui qui avait été vendu comme esclave en trichant sur son statut puisse ensuite faire valoir sa condition sujet libre. Il restait esclave auprès de celui auquel il s'était laissé vendre. Alors, je passe les détails sur la manière dont cela a été réalisé. Ce qui compte, c'est que cet arnaqueur perd sa citoyenneté et sa liberté, et qu'il subit donc une capitis diminutio maximale. Alors, si l'on peut tirer une conclusion des trois cas, il s'agit des trois situations dégradantes dans lesquelles l'esclavage est la conséquence soit d'un crime très grave, qui dans un certain sens place le criminel en dehors de la communauté, l'idée de le rééduquer étant étrangère malheureusement au droit romain, soit la conséquence d'une situation où un individu se met presque lui-même sur une pente qui le mène vers l'esclavage. L'affranchi ingrat qui était esclave le redevient. Et celui qui s'est fait vendre en se faisant passer pour un esclave voit son faux semblant transformé en réalité juridique. Je voudrais ajouter ici, en la reprenant des instituts de Gaius, une autre figure de capitis diminutio maximal. Vous voyez ici le texte. Peu à peu, je vous converte au latin sans traduction. Ça va arriver. C'est peut-être la figure la plus ancienne de Capitis diminutio maximal qui manque chez Justinien parce qu'à son époque elle était tombée en désuétude. C'est la Capitis diminutio qui concerne les personnes, dit Gaius, qui ne s'inscrivent pas au recensement et qui sont donc vendues selon les conditions établies par les censeurs. Sont vendus, incensis, ne sont pas fait inscrire au recensement, et donc qui sont, on ordonne qu'ils soient vendus selon les conditions établies par les censeurs. Alors, tous les 5 ans, il y avait à Rome un recensement qui, à une époque plus récente, concernait également les habitants de la Provence. Donc, nous connaissons tous le recensement qui a amené Joseph et Marie à Bethléem. Les citoyens devaient se déclarer leur richesse. Cet acte sur lequel veillaient les censeurs permettait de dresser des listes pour la conscription militaire et le paiement des impôts. Ne pas se faire recenser, c'était donc se mettre en dehors de la communauté, parce que c'était, couper tous les liens de solidarité avec sa communauté. D'où la conséquence d'être vendu comme esclave, sans doute en dehors du territoire de Rome. Alors, ici vous voyez une scène de recensement célèbre, parce qu'elle est gardée au Louvre, c'est l'hôtel dit de Domitius Enobarbus. Alors, les deux personnages ici représentent assis, représentent des scribes, dont des collaborateurs du censeur. On voit très bien ici le codex, c'est pas une tablette, c'est, vous voyez, une dimension assez large, parce que c'était le registre des citoyens de Rome. Et vous voyez ici un citoyen qui est en train de faire sa déclaration. Il tient aussi un rouleau ou une tablette. Ce sont probablement les données de son patrimoine qu'il fallait déclarer. Et le deuxième scribe se tourne vers un soldat. Il touche de sa main un bras de ce deuxième citoyen, et c'est un peu la représentation de l'affectation de ce citoyen à une tribu, à une classe militaire. Donc vous voyez un peu le symbole des deux fonctions du recensement: d'une part la déclaration du patrimoine, de l'autre part l'inscription dans le système de recrutement militaire. Avant de terminer notre lecture de cet extrait du manuel de Justinien, faisons une observation pas facile à exprimer, mais vous m'aiderez grâce à votre attention, c'est-à-dire c'est la perspective adopté par Justinien, disons, la perspective de ce discours. On ne dit pas que la capitis deminutio produit la perte de la liberté et de la citoyenneté. La capitis deminutio n'est pas la cause de la perte du statut, c'est la description des effets. Donc, elle n'est pas la source, mais la conséquence. Alors, cette perspective, c'est-à-dire celle des effets, ne concerne pas seulement le premier cas, de la première figure de Capitis deminutio maximale, mais aussi les autres. Nous voyons maintenant le deuxième cas de capitis deminutio, moindre ou moyenne, qui se produit lorsque la liberté est préservée, mais que la citoyenneté est perdue. C'est le cas de celui qui est frappé par une sanction aussi pittoresque que l'esclavage de la peine, dont le nom oscille entre métaphore et réalité, l'interdiction de l'eau et du feu. Un individu se voit interdire l'usage de l'eau et du feu dans le territoire de Rome. En clair, il est privé des moyens vitaux de subsistance. À l'origine, il s'agissait d'une personne qui décidait de soustraire une accusation criminelle en quittant le territoire de Rome pour s'exiler volontairement. Après son départ, l'interdiction de l'eau et du feu était prononcée par un magistrat. Concrètement, personne ne pouvait aider l'exilé ou le cacher, et s'il était retrouvé sur le territoire romain, n'importe qui pouvait le tuer en toute impunité. Celui qui avait subi l'interdiction de l'eau et du feu perdait sa citoyenneté, c'est du moins ce que nous dit Gaius, et après lui Justinien, tout en restant libre. Il était en somme apatride, à moins d'être reçu par une cité autre que Rome et acquérir ainsi une nouvelle citoyenneté. Troisième et dernier figure, est celle que Justinien, avant lui Gaius, considère comme le cas minimal de capitis diminutio. Justinien le décrit succinctement, sans donner des exemples. Cela s'est produit, dit-il, lorsque ceux qui étaient sous leur propre pouvoir, sui iuris, commencent à être soumis au pouvoir d'autrui ou vice-versa. Gaius le dit de façon plus transparente en donnant plusieurs exemples. L'un d'eux est celui de la femme qui accepte de passer sous le pouvoir de son mari par le biais d'un acte qu'on appelle coemptio, c'est-à-dire, de manière un peu troublante, achat. Dans les deux cas, alors, arrêtons un peu sur ce cas. Vous voyez, en droit romain, une femme pouvait se trouver dans deux situations différentes vis-à-vis du pouvoir. Soit elle était sous le pouvoir du père, soit elle était sous iuris. Alors, nous dirions pour ce deuxième cas qu'elle était indépendante, mais les Romains qui ont souvent leur regard rivé sur au pouvoir préféraient dire qu'elle était dans son propre pouvoir. Donc il y a toujours un pouvoir, même si c'est son propre pouvoir. C'est ça que l'expression « sui iuris » signifie, vraiment. S'appartenir, être sous son propre pouvoir. Dans ce deuxième cas, une femme était dans la même position d'un père de famille, à ceci près qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants sous sa puissance. C'était la seule différence. Et aussi, il y avait une sorte de tutelle, mais qui était plus, disons, plus un simulacre de tutelle. Donc, côté pouvoir, elle était dans la même position d'un père de famille. Alors, au moment du mariage, au vu de cette situation de deux parts, s'il s'agissait d'une fille encore sous la puissance du père, son père pouvait décider de la faire passer sous la puissance de son futur époux. Si en revanche la femme était sous iuris, indépendante, par exemple parce que son père était déjà mort, c'était elle qui pouvait décider de passer sous le pouvoir de son mari, par un acte que l'on appelle de manière, comme je vous l'ai déjà dit, coemptio. Alors, dans les deux cas, cela signifiait que cette femme devenait du point de vue juridique comme une fille de son mari. Elle était sous la puissance de son mari, disons au même niveau des enfants du couple. Situation, disons, de pouvoir, de point de vue du pouvoir. Comme les enfants étaient sous le pouvoir de leur père, et comme l'épouse était sous le pouvoir de son père, enfants et mère étaient sur le même niveau. Alors, une question s'impose, je sais, pourquoi passer sous le pouvoir de son mari? Alors, franchement, beaucoup pensent avoir la réponse, mais ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas non plus s'il était courant dans la pratique que la femme se soumette au pouvoir de son mari, ou s'il était plus courant qu'elle reste indépendante ou sous le pouvoir de son père. Donc, je ne connais pas les motivations pratiques, les mobiles, ni si c'était une pratique courante. Alors, il faut l'avouer, il y a des aspects très importants du droit romain, du point de vue de l'application, que nous ignorons. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement? Qu'est-ce que les chercheurs font dans des cas semblables? Ils plaquent un modèle sur l'Antiquité. Ils essayent, disons, de faire une hypothèse. Donc, vous ne serez pas surpris d'apprendre ce que l'on dit généralement à ces propos. Dans les temps anciens, les femmes se soumettaient au pouvoir de leur mari, et dans les temps plus récents, elles restaient le plus souvent indépendantes. Alors, vous l'avez compris, c'est comme si on appliquait une loi d'évolution au droit romain en projetant, ça c'est intéressant, le chemin de l'émancipation féminine sur l'Antiquité. Soit dit en passant, émancipation, c'est un mot qui contient la racine manus, le mot manus, plus le suffixe e, qui implique, disons, le mouvement à partir d'un lieu, un éloignement. En fait, les pouvoirs du mari sur sa femme s'appelait manus. Et je vous montre ici une stèle funéraire pour ce couple. C'était un boucher. C'est serait merveilleux de la lire, mais c'est trop émouvante. Je peux pas le faire. Et donc c'est un boucher qui fait un éloge de sa femme qui l'a précédé dans la mort. Sa femme lui répond, et c'est vraiment quelque chose qui peut-être, je trouve, c'est pas vraiment très élégant, et ce qui est davantage troublant. Et vous voyez ici, je ne sais pas si c'est par hasard, c'est, disons, scène de mariage, ou quand même c'est l'expression du couple, et vous voyez, le relief, la centralité des mains des deux. Donc c'est vraiment l'expression, la manus, c'est vraiment l'expression du rapport et du pouvoir du mari sur son épouse. Alors, revenons à notre schéma. Une femme qui passait sous la manus de son mari, qu'elle était auparavant sous le pouvoir de son père ou indépendante, souffrait d'un capitis de minutio, du degré minime. Alors, il faut se poser la question, dans quel sens le statut de la femme a-t-il changé? Elle restait libre, citoyenne romaine, mais quelque chose avait changé par rapport au pouvoir, à sa condition potestative. Elle passe du pouvoir de son père à celui du mari, ou bien de son propre pouvoir à celui du mari. Elle aussi a donc subi un capitis de minutio. Et on peut dire que dans ce cas, le changement de statut est lié au changement du titulaire du pouvoir sur la femme. Alors, s'il était facile d'apprendre, je suis sûr que vous avez fait le rapprochement, c'était facile d'apprendre les cas précédents de capitis de minutio maximale et moyenne comme une dégradation qui frappait celui qui devenait un homme libre après avoir été esclave ou un citoyen romain qui devenait apatride, clairement une dégradation. Il est plus difficile de l'avoir ici, surtout si la femme passer du pouvoir de son père au pouvoir de son mari. Du point de vue, moi, je dirais substantiel, S'il faut faire une réflexion sociologique, on ne voit pas ça comme une dégradation. Et même lorsqu'elle, disons, volontairement se soumet au pouvoir de son père, c'est quand même sa volonté. Donc c'est très difficile d'apprendre la capitis de minute, c'est-à-dire de la même manière ici que dans les cas précédents. Mais quand même, elle s'appelle capitis de minute. Donc c'est ça que je veux souligner. Donc qu'il faut, à mon sens, éviter de comprendre, comme c'est facile pour nous, la capitis de minute, c'est comme une dégradation. Cela est encore plus évident si nous prenons un autre exemple, donné cette fois-ci par Gaius. J'espère que vous avez compris, je passe de Justinien à Gaius, parce que Gaius, c'était un peu la version originale, et Justinien, c'était la version amendée, mais on fait parfois retour, et les deux sont presque, disons, complémentaires. Donc, vous voyez la même définition, la capitis de minute est minimale lorsque la citoyenneté et la liberté sont maintenues, mais l'état d'un homme est modifié. Cela se produit pour ceux qui sont émancipés, qui sont affranchis de l'émancipation. Alors, c'est une personne qui est émancipée par son père de famille encore vivant. Mettons le fils aîné, qui devient ainsi, il devient, je suis sûr que vous avez compris, s'il est sous le pouvoir de son père et il en sort, il devient sui iuris. Le fils qui était sous la puissance de son père, si son père, disons, l'affranchit, il devient sui iuris, sous son propre pouvoir. Pourtant, dit Gaius, dans ce cas aussi, il subit une capitis de minutio. Comprendre ça comme une dégradation, c'est vraiment impossible. Parce qu'il devient un père de famille. Celui qui était sous la puissance d'autrui, il devient indépendant. Donc, ce n'est pas du point de vue sociologique qu'il faut comprendre la capitis de minutio, mais c'est un dispositif qui a une signification juridique, quelque part, qui nous échappe jusqu'ici. Alors, jusqu'ici, je pense que ce que je viens de vous expliquer, même si c'est un peu, disons, détaillé, compliqué, je pense que c'était assez clair. C'était clair parce que c'était, je n'ai fait que commenter des manuels qui sont très très clairs. C'est pas clair? Il y a trois capitis de minutione, maximale, moyenne et minimale. Ça dépend de la perte de la citoyenneté et liberté dans le premier cas. Deuxième cas, on perd seulement la citoyenneté. Troisième cas, il y a un changement de statut par rapport à la puissance, au pouvoir auquel une personne est soumise. Alors, si nous avons compris le mécanisme, il faut revenir à l'expression, au mot « capitis de minutio ». Pourquoi appeler ce changement de statut capitis de minutio? Quelle idée exprime ces mots? Alors, vous savez que les métaphores nous intéressent parce qu'elles révèlent quelque chose de la mentalité de la personne ou du groupe qui les a produites. Ici, il s'agit évidemment d'une métaphore corporelle, mais quel en est le sens? Avant de chercher à le retracer, une considération s'impose. Nous avons affaire ici à une trajectoire que nous avons déjà rencontrée auparavant. Le langage juridique romain passe d'une forme plus imaginative et métaphorique, à la fois plus concrète et moins précise, à un langage plus abstrait et défini. Précisément, ce que nous voyons se passer de l'expression capitis de minutio à l'expression prioris status permutatio ou commutatio. Donc vous voyez, c'est un langage plus technique. Et pourquoi plus technique? Parce que nous le comprenons. Donc nous n'avons pas besoin de nous interroger sur sa signification. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir sous la surface. Et il faut dire qu'on n'a jamais pu dévoiler ce mystère. Alors, dans un cas de ce genre, lorsqu'on ne comprend pas qu'est-ce que vraiment « capitis de minutio » veut dire, je pense que la meilleure façon de procéder n'est pas de chercher une solution à tout prix ou d'exprimer une préférence pour l'une ou l'autre des propositions. Ce qu'on fait souvent, on publie un article en disant « moi, je penche plutôt pour cette interprétation », mais je trouve que ce n'est pas vraiment très, très intéressant. Il faut accepter, assumer la difficulté et examiner les méthodes qui ont été utilisées pour analyser le problème. Elles ne nous donneront pas peut-être la réponse, mais elles nous en diront certainement beaucoup sur le regard que le moderne porte sur le passé. Alors donc, il y a au moins trois façons d'étudier la capitis de minutio, c'est en analysant le lexique, ou l'anthropologie, ou le système juridique lui-même. Alors, au niveau du lexique, caput est un mot clair en lui-même, que l'on retrouve avec le sens de tête dans de nombreuses langues indo-européennes. Disons en passant que le mot tête, testa, en latin, est en fait lui-même une métaphore, car testa désigne une coquille, une carapace de crustacés, puis par dérivation un objet en terre cuite, peau, vase ou cruche, enfin une tête humaine. Alors, cette définition très intéressante, mais qui impliquerait, peut-être nous le ferions dans une autre séance, qui montre le passage de l'idée de caput à l'idée de personne. Et nous nous arrêtons sur les usages, disons le potentiel métaphorique du mot caput. Alors, il ne signifie pas seulement tête, mais aussi personne, également capital dans le sens du patrimoine, capital d'une province, source d'un fleuve, chef de la conjuration, pièce principale du repas, chapitre d'un livre. C'est Benveniste qui a étudié très bien ce mot. Mais alors, dans lequel de ces significations le texte, le mot a été utilisé? Alors, concentrons maintenant nous sur le verbe, pas sur le mot caput, mais sur le verbe, de minuo. Alors, il implique la racine minus, moins, donc il implique l'idée d'une réduction qui reste dans notre verbe diminuer. Mais il ne faut pas oublier la syntaxe. L'expression verbale est aliquis capite diminuitur. C'est-à-dire que caput est à l'ablatif. Et ce qui est diminué n'est pas le caput, mais l'individu, en tant qu'il est privé de sa tête. C'est pourquoi, pour moi, il n'y a pas de doute, il faut comprendre cette locution comme si les caput avaient été enlevés à l'individu, comme on le dirait d'un arbre privé d'une branche. Et c'est par ailleurs la signification concrète, plus ou moins, qu'on retrouve dans saint Augustin, lorsqu'il parle de Jean le Baptiste comme de capite minutus. Donc vous voyez exactement cette expression, c'est l'expression que nous sommes en train de, disons, d'interroger, et sa visualisation. Alors, c'est donc l'idée de décollation. Et bien évidemment, je vous avoue que ce sont des expressions que je prononce avec une angoisse particulière en ces temps cruels. Et je voudrais apporter une précision supplémentaire. Pourquoi il s'agit de la perte de la tête ? Non, c'est pas pourquoi. Puisqu'il s'agit de la perte de la tête, il n'y a pas de perte plus ou moins grande. Ça, vous l'avez, je pense, compris. Alors, lorsqu'on pense aux 3 degrés de la capitis diminutio, on pense qu'il y a une sorte de graduation dans la diminution. C'est pas le cas parce qu'on perd la tête, soit tout entière, ou on la perd pas. Donc, c'est un peu, disons, l'écho produit en nous par le mot capitis diminutio, le verbe diminuere, les 3 degrés qui font penser à une gradation de la capitis diminutio. Mais la capitis diminutio, si on la comprend comme cela nous apparaît très clair, est unitaire. Alors, il faut revenir, après avoir compris qu'est-ce que « diminuo » signifie dans cette locution, il faut revenir à « caput ». Alors, abordons la voie anthropologique, peut-être c'est trop important pour ce que je vais dire. En tout cas, on peut citer de nombreux exemples où le caput est au cœur d'un acte juridique où il joue un rôle symbolique. Par exemple, lors de la manumission de l'esclave, celui-ci était touché à la tête, donc son caput, avec un bâton, et une fois affranchi, il portait le pileus, un bonnet de forme arrondie. Brutus, au lendemain du meurtre de César, fait frapper par Pletorius en denier, au revers duquel figure une image très significative. Il s'agit de 2 poignards, meurtre de César, et en pileus, avec la date des Ides de Mars. Et le pileus, qu'est-ce que cela signifie? Que Rome a été affranchie. Elle a été libérée grâce à l'assassinat, au meurtre de César. Donc c'est le pileus qui symbolise la libération et qui devrait être imposé sur la tête de Rome. Il faudrait que voir ici la tête des Roms, comme on la voit souvent sur des monnaies. Pourquoi on n'a pas voulu la mettre ici? Je ne sais pas, peut-être parce qu'on avait un peu de honte à représenter Rome comme une affranchie. Bon, je vais vite je pourrais vous dire que il y a d'autres rites de passage, par exemple l'épouse au moment du mariage était peignée avec un peigne spécial, donc encore une fois la tête était mise en jeu dans un rite de passage, et le roi, lors de l'inauguration, nous en avons une description très précise dans Tite Live, le roi, Numa dans ce cas, Numa Pompilius, était inauguré, disons, il devenait roi par une cérémonie pendant laquelle l'augure avait sa main sur la tête. Il disait, dans la formule, il disait « caput teneo », donc « je tiens sa tête ». Donc vous voyez que la tête était au centre, pour ainsi dire, des différents rites de passage. Mais l'esclave qui devient affranchi, la femme qui devient épouse, l'homme qui devient roi, quel rapport tout ça avec la capitis diminutio? Pour essayer d'aller un peu plus loin, je vous propose cette troisième voie, après la voie du lexique, la voie anthropologique, une voie, disons, historiographique ou juridique. Donc, je vous présente deux interprétations. La première est celle de François Hotman, un juriste français né en 1524 qui se convertit au protestantisme en 1547, s'installant en Suisse et à Strasbourg, d'où il soutint par des très, très nombreux écrits ses coreligionnaires et contribua à construire le discours de la résistance au roi lorsque son gouvernement s'avère tyrannique. En 1569, ce grand intellectuel publie un commentaire aux Instituts de Justinien, et quand il parvient au chapitre 16 du premier livre des Instituts, Hotman se doit d'expliquer la signification de la locution « capitis diminutio » comme nous sommes également en train de le faire. Alors, j'imagine que vous comprenez, quand je vous présente des textes de ce genre, je veux aussi vous montrer quelle est la profondeur, l'épaisseur même, de l'historiographie sur le droit romain. C'est un axe autour duquel le droit romain s'est bâti toute une réflexion. C'est l'un des axes, pour ne pas dire le principal, l'un des principaux axes de réflexion et de formation d'un discours public dans l'Europe à partir du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Donc, c'est pas étonnant de voir en 1569 quelqu'un qui fait exactement la même démarche que nous sommes en train de faire. Alors, faut dire tout de suite que l'hypothèse de Hotman, qui a eu un succès énorme, continue d'être mal comprise par ses lecteurs. Et c'est un cas où une hypothèse a eu beaucoup de succès parce qu'on a mal compris ce qu'il avait dit. Alors, il part, Hotman, du point de vue de que chacun individu doit sa position juridique à son appartenance à trois groupes, les citoyens, les libres et la famille. Cela, nous le savons. Hotman constate ensuite que du point de vue de ces groupes, la perte d'une tête signifie le départ d'un de ses membres. Donc, capitis diminutio signifie à l'origine qu'un groupe perd un de ses éléments. C'est une situation qui affecte le groupe plutôt que l'individu. Et c'est ça l'hypothèse qui a eu un succès retentissant. Le problème, c'est que Hotman ne s'arrête pas ici, il poursuit et il explique que si ça c'est le point de départ, il y a une deuxième partie. Il dit que les juristes romains ont inversé cette expression et l'ont envisagée du point de vue de l'individu, pas du groupe. Et donc, perdre sa tête signifie perdre sa position juridique telle qu'elle est définie par l'appartenance à un groupe. Et donc, caput signifie la position juridique d'un individu par rapport à un groupe. Et il faut dire, cette interprétation d'Hotman, au bout du compte, ne nous dit pas vraiment grand-chose. Après Hotman, les explications se sont multipliées. Je vous épargnerai 4 siècles d'hypothèses, certains intelligentes, d'autres beaucoup moins, tout prétendant cependant avoir enfin trouvé la clé. De 1569, l'année de publication du commentaire de Hotman, je fais donc un bond en 1952 lorsqu'un grand savant allemand, Max Kaiser, propose d'expliquer la capitis de minutio comme une métaphore de la décapitation au sens concret du terme. C'est-à-dire que, par exemple, les citoyens qui, ne s'étant pas inscrits au recensement, est vendu comme esclave en dehors du territoire de Rome, était considéré comme s'il avait été métaphoriquement décapité. Même chose pour celui à qui l'on interdit d'utiliser l'eau et le feu et qui, s'il est trouvé sur le sol romain, peut être tué en toute impunité. Dire qu'il est capite minutus préfigure, anticipe cette issue, la mort. Je laisserai de côté diverses faiblesses de cette hypothèse que Kaiser lui-même n'a pas manqué de souligner. Je dirais seulement que, dans une certaine mesure, les juristes romains ont compris la capitis de minutio de la même manière que Kaiser. Ils assimilaient la capitis de minutio à la mort. Les passages de ce genre sont nombreux, je n'en citerai qu'un, de Gaius, vous l'avez compris, l'un de mes préférés. Les sujets et les contrats de société par lesquels deux ou plusieurs personnes s'associent pour poursuivre un but commun et partager les profits et les pertes. Il s'agissait d'un contrat qui impliquait une forte collaboration, presque un esprit de fraternité, de sorte que la mort d'un associé, c'est étrange pour nous, était considérée comme dissolvant la société, le contrat. Il n'en allait pas de même pour d'autres contrats où l'obligation passait aux héritiers. Dans la société, la mort était irrémédiable, elle dissolvait les contrats. Mais il en allait de même pour la capitis de minutio. Gaius le dit très clairement, comme il en a l'habitude, on dit que le contrat de société est dissous aussi à cause de la capitis de minutio, puisque pour la raison civile c'est le droit civil, mais ça nous n'étonne pas parce que nous avons cette expression par exemple dans la locution raison d'État. Alors raison civile c'est équivalent à droit civil. Donc pour le droit civil, la capitis de minutio est assimilée à la mort. Assimilée à la mort. Et il continue. Bien entendu, si les deux partenaires acceptent à nouveau de s'associer, on considère qu'une nouvelle société commence. C'est un autre contrat de société. Donc, vous voyez, ici, il y a cette équiparation faite par un juriste romain de la capitis de minutio à la mort. Alors, devons-nous penser donc que c'était également l'idée à l'origine, une sorte de mort de l'individu comme par décollement? Cela pourrait être seulement une construction posteriori des juristes romains, à des siècles de l'origine de la capitis de minutio. Donc c'est un peu risqué de se fonder sur ces textes, même si Kaiser avait une démonstration bien plus développée. Il est possible qu'on risquerait de s'égarer si l'on calquait les effets de la capitis de minutio sur ceux de la mort. Mais il est sûr et certain que dans les droits modernes, en lisant les instituts de Justinien, c'est pour ça que j'ai utilisé les instituts de Justinien, on a attaché à la mort civile les mêmes effets qu'à la mort naturelle. La mort civile revient à la une en 2019 dans le cadre de la loi intitulée « Améliorer la lisibilité du droit ». C'est un peu pas très lisible, mais... Donc, c'est une loi visant à abroger diverses dispositions législatives adoptées entre 1819 et 1940 et devenue obsolète depuis. Cette loi a effectivement été adoptée le 31 mai 2019. Non, ce n'est pas peut-être la date, c'est le 11 décembre 2019. Alors... Cette loi s'est intéressée, entre autres, aussi à la mort civile, Lisons ce qu'en dit le rapport rédigé par Madame Nathalie Delattre au nom de la commission des lois qui a été présentée au Sénat pour convaincre les élus à voter cette proposition de loi. Alors, c'est l'explication qu'on lit dans le rapport. Issue du droit romain, la mort civile vise à priver l'individu de ses droits civils, notamment à la suite d'une condamnation aux galères ou au bannissement de la cité. Elle a longtemps constitué les pendants civils des condamnations pénales les plus graves. Alors, nous comprenons de ces premières lignes du rapport que la capitis de minutiae avait été accueillie dans le droit français moderne sous le nom de mort civile. C'est-à-dire qu'on a laissé tomber les noms de capitis de minutio, abse obscur, mais on a repris l'idée de l'équiparation à la mort. Et comme Gaius parlait de mort selon la ratio civilis, on l'appelait mort civile. Alors, poursuivons la lecture du rapport de 2019. Appliquée sous l'Ancien Régime, cette notion fut reprise par l'article 25 du Code civil napoléonien. Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il possédait. Sa succession est ouverte au profit des héritiers, de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus de la même manière que s'il était mort naturellement en son testament. Donc, sa succession s'ouvre tout comme s'il était mort. Donc, vous voyez cette fiction, cette équiparation à la mort naturelle. Frappé des morts civiles, l'individu ne peut ni ester en justice ni contracter un mariage. Alors, la mort civile fut définitivement supprimée en 1854, donc c'était déjà bien évidemment abolie, donc ce n'est pas en 2019 qu'on l'abolit, elle était déjà abolie en 1854, je vous passe les détails, vous comprenez, il restait deux articles, mais notamment un article qui disait de la loi 1854 qui disait la mort civile est abolie. Est-ce que en 2019 faut-il abroger cet article? C'est ça la question. Je répète. En 1854, on a aboli la mort civile par une loi qui disait en son article premier la mort civile est abolie. C'est l'article qui est resté. Donc, il y a cette abolition de la mort civile, loi de 1854. En 2019, on commence à réfléchir sur les lois qu'il faut abroger parce qu'elles sont vieillies. On tombe sur la loi de 1854, dont restent deux articles, surtout le premier qui dit « la mort civile abolie ». Est-ce qu'il faut abroger cette disposition ou pas? Alors, vous comprenez le dilemme, parce que je pense que dans un débat extrémiste, si on abrogeait l'article qui avait abrogé la mort civile, on aurait pu penser qu'elle était revenue à la vie. Donc, la décision a été celle de retenir, de ne pas abroger cet article qui abolit la mort civile pour rendre clair qu'elle était, elle demeure abolie. C'est intéressant de lire la motivation. Cette disposition, même si elle a épuisé ses effets juridiques, conserve un intérêt historique, une valeur symbolique. Et ensuite, le rapport insiste sur les vertus historiques et pédagogiques de cette disposition. Donc, on l'a gardé, et ce débat nous apprend qu'il existe des normes sans valeur juridique, mais qui ont une valeur symbolique. Et c'est intéressant parce que c'est l'idée qui est avancée par ceux qui propose par exemple la personnification des rivières et des animaux. Nous en avons parlé l'année dernière. Disons-le, si on parle de la personnification des objets naturels, c'est l'inverse de la mort civile, c'est la vie civile. Mais peut-être cette affaire de l'abrogation de la loi de 1854 fait ressortir aussi un autre constat. qui me touche beaucoup, que j'arrive pas souvent à exprimer, à savoir qu'il est difficile d'évacuer du monde du droit les idées une fois qu'ils sont entrés. Il y a une sorte d'entropie, je ne sais pas comment la définir, des idées juridiques. Surtout quand elles sont d'une telle puissance métaphorique, comme la capitis diminutio. Alors, par ce détour, nous avons suivi jusqu'à présent l'une des deux idées dominantes chez les juristes romains, celle de la capitis diminutio comme phénomène assimilé à la mort qui tire son nom de la décapitation. Il y a une autre occasion où les juristes romains laissent entrevoir le sens qu'ils attribuaient à cette expression, c'est lorsqu'ils disent qu'un esclave n'a pas de caput. Les institutions de Justinien elles-mêmes le disent de manière plus générale. Le juriste Paul, nous lisons son texte, manifestement, une capitis minutio arrive aussi au fils émancipé. Ça, nous le savons déjà parce que nous l'avons lu dans Gaius, le fils qui sort de la puissance de son père, du vivant de son père, au fils émancipé et aux autres personnes de ce genre. Puisque personne ne peut être émancipé à moins d'être réduit en simulacre d'esclavage. Oui, parce que l'acte par lequel on arrivait à être émancipé impliquait trois ventes, trois fois, il fallait vendre, disons de façon symbolique, son fils et ensuite l'affranchir. Donc ce fils tombait de façon temporaire et symbolique dans un état d'esclavage. Donc ça, on le comprend. Il en va différemment, question par antithèse, encore une fois, vous retrouvez les mêmes structures, antithèse, il en va différemment lorsqu'un esclave est affranchi. Donc on pourrait se poser la question, mais s'il y a un esclave qui est un esclave et affranchi, il change de statut, donc on pourrait dire qu'il subit une capitis diminutio. Ce n'est pas le cas, parce que un caput d'esclave n'a pas de droit et qu'il ne peut donc pas lui être enlevé. Au bout du compte, la capitis diminutio était-elle la métaphore de la mort, ou caput était-il une notion métaphorique de la condition d'homme libre, disons de son existence pour le droit? Je ne pense pas pouvoir résoudre ce dilemme, vous l'avez compris. Nous sommes confrontés à une métaphore que nous ne sommes plus en mesure d'interpréter. Une fois encore, en chemin allant d'anciennes formes d'expression à une rationalisation plus récente a été mise en lumière. La théorie de la capitis diminutio, c'est un peu le sujet de mon cours cette année, c'est-à-dire nous intéressons souvent à la lexicalisation, au fait que en langage devient de plus en plus technique, mais il ne faut pas oublier l'origine et qui est souvent, autre, qui est métaphorique. La théorie de la capitis diminutio présentée par Gaius et Justinien, qui traduisent cette locution par changement d'état avec ces trois degrés, n'est autre chose qu'une rationalisation. Et lorsque nous lisons aujourd'hui dans un livre de droit romain qu'il s'agit d'un changement d'état, nous ne faisons que répéter cette rationalisation. Mais j'espère que vous n'allez pas répondre « qu'est-ce qu'une capitis diminutio ? C'est un changement d'état hein. ». Pas après ce cours. Le vrai de cette image puissante de la perte de la tête reste pour nous un arrière-plan obscur, duquel on a envie de s'éloigner vite en direction d'un langage juridique plus épuré et neutre. Si j'ai insisté sur un thème que je ne peux pas expliquer, c'est parce qu'il montre justement combien nous aimerons et combien il serait intéressant de découvrir ce qui se cache derrière les métaphores. Même derrière les métaphores que nous ne comprenons pas et, comme dans ce cas, que nous préférons peut-être ne plus avoir à comprendre. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.